verrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre la série de quatre émissions. Enfin, il y avait une préface et il y aura une postface. Mais il s'agit donc de parler de quatre architectes, figures emblématiques de l'histoire de l'architecture moderne du XXe siècle. Alors, comme je vous avais dit, j'ai résumé en ces figures caractéristiques et je n'ai pas développé une arborescence de mouvements qui serait évidemment trop complexe et qui me paraît pas non plus très justifiée. Donc on peut dire qu'à l'art, il y a des figures marquantes pour le XXe siècle, Picasso, Matisse, et il y a aussi des petits maîtres, des gens qui ont, on peut dire, une œuvre singulière, qui peut être intéressante, mais qui n'ont pas d'influence. Donc ce qui est intéressant, c'est justement que des personnalités fortes puissent avoir une influence considérable sur leur siècle. Donc c'est à la fois la rencontre du temps et aussi de la personne. Ce n'est pas les personnes qui font le mouvement, mais c'est les évolutions de la société qui rencontrent une personne qui va être symbolique, qui va signifier les changements de l'époque. Donc, on a pu le voir pour les trois architectes précédents, que je rappelle, il s'agit de l'architecte germano-américain Mies van der Rohe, Ludwig Mies van der Rohe. Le deuxième est Le Corbusier. Le troisième, c'est l'Américain Louis Kahn. Et le quatrième, aujourd'hui, c'est Robert Venturi. Alors, Robert Venturi, qui est certainement moins connu que Le Corbusier pour les Français, parce que il est plus près de nous, mais il n'a pas, on peut dire, l'aura et l'influence qu'il a eue pour le grand public, mais il a eu une influence considérable dans le milieu de l'architecture. De plus, il a construit à Toulouse le seul bâtiment qu'il ait fait en France, et il s'agit de l'hôtel du département. Donc, à ce sujet, à ce moment-là, je l'ai rencontré. Et j'ai discuté et parlé avec lui. Et d'ailleurs, on avait visité ensemble le bâtiment que j'avais réalisé. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un rapport direct, évidemment, que j'ai eu avec Anne, mais que je n'ai pas eu avec les deux premiers protagonistes. Mais c'est une autre histoire. Donc, pour revenir à Robert Venturi, Robert Venturi naît à 1925 à Philadelphie. Alors décidément, Philadelphie, on en a parlé dans la dernière émission avec Louis Kahn et Robert Venturi est aussi issu de la même université, donc c'est l'Université of Pennsylvania, qui est connue sous le nom sur le diminutif de Penn. Et qui est, on peut dire, centrale aux États-Unis, avec notamment cette influence très importante de Paul Klee et donc de l'architecture française, de l'architecture des Beaux-Arts, avec des personnalités très fortes qui ont marqué le paysage architectural américain. Donc, cette université est significative et le rapport entre Venturi et Louis Kahn sera celui de d'un maître à élève, puisqu'il travaillera pour lui, et il aura toute sa vie, en tout cas Venturi, une admiration pour Kahn. Alors, je vous raconterai après que l'admiration n'est pas réciproque dans l'évolution de la vie et des œuvres de Venturi. Alors, Venturi, on peut dire, déboule dans l'histoire de l'architecture américaine, non pas par un bâtiment, mais par un livre qui s'appellera en anglais « Complexity and Contradiction in Architecture », qui sera traduit en français par « De l'ambiguïté à l'architecture », mais qui aurait pu être traduit d'une manière plus littérale par « La complexité et la contradiction dans l'architecture », ce qui me paraissait d'ailleurs plus judicieux. Et ce livre va avoir une influence très importante. Alors, il est, encore une fois, c'est la rencontre entre une œuvre et une personnalité et l'époque. Alors, il faut ramener cela dans les années 60. Donc, on est près de 68. Le livre sort en 63. Et il y a la génération, on peut dire, d'étudiants qui est les boomers d'aujourd'hui, dont je fais partie, et qui remet en cause l'ordre établi, qui est celui des aînés, et notamment celui de Mies van der Rohe. Alors Mies van der Rohe, c'est la figure tutélaire très importante dans l'architecture américaine notamment. Il a une position centrale, beaucoup plus que Le Corbusier, qui a une influence moins importante, ne serait-ce que par le béton armé, mais l'emploi du métal, c'est ce qu'on a appelé le style international, donc qui va diffuser dans le monde entier, et qui, évidemment, est né aux États-Unis et à travers la figure emblématique de Mies. Donc, Venturi va créer la rupture. On sait que le slogan, on peut dire minimaliste déjà, comme son architecture de Mies van der Rohe, est « less is more », le moins c'est le plus. Donc ce qui veut dire, c'est que on arrive à la plus grande qualité de l'architecture en épurant et en arrivant, et ce qu'il s'est appliqué à faire tout le long de sa vie, en arrivant à la forme géométrique la plus simple et aux détails les plus expressifs. Donc c'est une quête vers une ascèse. Et donc, Venturi va prendre dans son livre polémique l'opposé. Et il va prendre le contre-pied, comme je vous disais, et il fera un jeu de mots entre « less is more » et « less is bore ». Alors « bore », en anglais, ça veut dire « la nuit ». Donc, au lieu du « le moins, c'est le plus », il dira « le moins, c'est emmerdant », on pourrait dire d'une manière vulgaire, « c'est ennuyeux », voilà. Donc, il va proposer une architecture qui sera à l'opposé et qui sera, évidemment, on est au moment du pop art, on est en rupture avec justement le style, on peut dire le minimalisme du qu'on va trouver chez Mondrian dans l'art, et on va avec Warhol vers une architecture qui va être ce qu'on appelle le pop art, c'est-à-dire une architecture populaire qui va retrouver une nouvelle vitalité dans le monde ordinaire. Et donc, il y a une approche sociale qui est à l'opposé donc d'une architecture qui serait élitiste, qui tend vers une sorte de pureté d'élite, et de revenir à quelque chose qui est plus près du goût du public. Donc ça traverse évidemment la politique de l'époque et ce renouvellement générationnel, c'est la rupture des codes, on peut dire aussi la rupture de l'enseignement, de tout le formalisme de l'enseignement, et on va vers, on peut dire, une vision beaucoup plus populaire, populiste, on peut aussi dire démagogique. Alors, suivant le point de vue que l'on peut apporter, on peut dire que c'est un enrichissement parce qu'on va chercher dans la culture populaire une saveur à l'opposé, justement, c'est l'histoire de la nouvelle cuisine qui tend à être épurée et avec le côté roboratif des cuisines régionales faites de variétés ou même exotiques, etc. Donc, on est au cœur d'un on peut dire, d'un changement civilisationnel et qui n'a d'ailleurs pas résolu aujourd'hui, où on a cet affrontement, mais à cette époque, il avait le mérite d'être une opposition qui était exprimée comme telle, un débat qui était très vivifiant, et on peut dire qui a apporté aussi des nouveautés et qui était tout à fait intéressant. Donc, Venturi est la figure tutélaire de cela, et donc il va illustrer son livre avec des réalisations. Alors, ces réalisations ne sont pas très importantes, mais elles signifient justement tout ce goût populaire. Alors il va terroriser avec son épouse Denise Scott Brown à travers des articles, des publications, des conférences, et un deuxième livre qui va suivre, qui sera fait avec les étudiants de l'université de Yale. On est toujours sur la côte est, et qui va être un livre qui s'appellera en anglais Learning from Las Vegas, qui veut dire apprendre de Las Vegas, où on va appliquer le système, on peut dire, universitaire, très savant, de l'université traditionnelle. Il s'agit de l'université de Yale. On va appliquer cela sur ce qui est considéré aux États-Unis comme, on peut dire, la ville la plus vulgaire. C'est Sin City, la ville du péché, la ville du jeu, la ville de la prostitution, la ville de la mafia, qui est évidemment considérée avec beaucoup de distance par les élites américaines. Et donc on va analyser Las Vegas de la même manière que l'on va analyser l'architecture classique, les bâtiments de Rome, en lui donnant une sorte de valorisation, de légitimité, on pourrait dire, culturelle, à travers tout ce qui est les choses les plus vulgaires, qui sont ces grands panneaux lumineux et qui vont être analysés de la même manière que l'analysera les bâtiments classiques dans l'architecture. Donc, toute l'approche de Venturi sera celle de réanimer la culture populaire et aussi de l'incorporer. Donc, on va marquer une pause musicale et puis je reprendrai l'exposé sur Venturi. Thank you. les architectes précédents, je vous avais parlé de l'influence qui m'est apparue il y a peu de temps de la religion, et cette influence n'a pas été remarquée dans tous les ouvrages sur l'architecture d'une manière générale, où on a parlé des influences des architectes. Mais c'est tout à fait intéressant de voir, au contraire, qu'il ne s'agit pas des influences que l'on subit dans les voyages et que l'on subit dans les rencontres, mais quelque chose qui nous échappe et qui est lié à notre enfance, à notre, on peut dire, à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands-parents, et à ce marquage que peut donner les religions. Alors, on a vu le catholique, on a vu le protestant, on a vu le juif, et là, il y a quelque chose qui, effectivement, m'avait totalement échappé, et je crois que ça avait échappé à tout le monde, parce que je ne l'ai vu jamais marqué, mais par hasard, en faisant cet exercice, j'avais remarqué que Venturi, famille italo-américaine, mais ancienne, et qui n'avait pas dû, et qui n'est pas dans sa personnalité. Je vous avais parlé des différentes personnalités, et Venturi n'est pas à la, on peut dire, en phase avec sa démonstration, son discours, qui est populaire, populiste, et qui serait, comme je vous disais, lié à l'exubérance des signes et de nos banlieues. Donc, il réhabilite le parking du supermarché, il réhabilite Las Vegas, et donc tous les signes qui sont les bandeaux lumineux, les signes au bord des autoroutes. Et au lieu de dire ça, tout ça, c'est ce qu'on avait appelé dans un livre connu qui s'appelait les débarras du bon Dieu, God's Own Junkyard. C'était au contraire, lui, il valorise ce qui avait été critiqué sur la banlieue américaine, faite de ces bâtiments qui ne sont pas planifiés et qui sont dus uniquement au commerce. Et lui, en tant que personne, c'est quelqu'un qui est vraiment le prof rigide et qui ne correspond pas du tout cette image. Alors, justement, il est issu d'une famille de Quakers. Et alors, les Quakers, c'est quoi? Les Quakers, vous savez, bon, certainement, c'est une religion, on peut dire, dissidente de la religion anglicane, et ils sont partis chassés certainement d'Angleterre, les Quakers. Donc ils sont des arrivants très tôt aux États-Unis, et c'est une religion particulière qui est justement très près, à la fois près du peuple, mais à la fois aussi progressiste. C'est-à-dire que les Quakers, ils ont été très tôt contre l'esclavagisme, ils ont été pour les libérations féministes. Et d'ailleurs, la mère de Venturi serait une militante féministe, et bon, d'une famille bourgeoise. Alors, j'ai regardé, n'étant pas un spécialiste de ces religions américaines, qui sont, comme vous le savez, assez diversifiées, ces religions évangélistes, et les Quakers, ils sont connus pour leur chapeau rond, que l'on voit là sur les Quaker Oats, mais ils ont, par rapport justement à leur architecture, ils construisent la maison des amis. Ils n'ont pas d'église visible comme les temples protestants qui marquent, ou évidemment les églises catholiques, mais ils ont la maison des amis, qui sont des maisons assez ordinaires, mais il y a des signes très visibles, et notamment des grandes pancartes, et ces maisons, et il n'y a pas de hiérarchie, elles sont des maisons assez, on peut dire, ordinaires, entre guillemets, et qui sont avec des couleurs aussi de l'architecture populaire, et avec aussi des grandes pancartes qui montrent la maison des amis. Et Et quand on regarde les bâtiments de Venturi, on voit qu'en fait, il y a ce rapport de bidimensionnel que l'on va retrouver justement dans les signaux de Las Vegas et dans ces collages et de l'architecture, ce que vous retrouverez par exemple dans l'hôtel du département, avec les deux colonnes qui étaient historiquement à l'entrée du pont des Minimes et qu'il va reprendre comme signal, mais en les aplatissant et en faisant comme les panneaux de Las Vegas lumineux qui indiquent les casinos, qui indiquent les hôtels de cette ville du jeu. Alors, c'est évidemment tout à fait paradoxal et intéressant, et il y a aussi, sur un plan, on peut dire, des idées, une vision très... je vous avais parlé de populaire, de populisme, mais une réhabilitation du goût du peuple contre celui des élites. Et donc, on retrouve ça aujourd'hui avec, on peut dire, dans la peinture et dans la sculpture qui est l'art conceptuel, où que l'on va retrouver, je vous avais parlé de Warhol et de Basquiat, des incorporations à l'intérieur du mouvement. Donc, pour revenir à Louis Kahn, il a Venturi une admiration pour Kahn, mais Kahn est assez furieux, et c'est la question que je lui avais posée, donc c'est témoignage direct, et il était très irrité par la démarche de Venturi. Et ce qui est très surprenant, c'est que en cassant les codes de l'architecture moderne et en permettant justement l'incorporation, on l'avait vu avec Beaufil, la postmodernité, et Venturi à la fois niant être le responsable de la postmodernité, qui évidemment, une fois qu'on a ouvert les vannes de la modernité et de ses règles, on se trouve avec ce qui est aujourd'hui cette architecture dont on a de la peine de distinguer des styles. Et aujourd'hui, on n'est plus devant des mouvements, mais on est sur l'individualisme de l'architecture. Je pense que Venturi a une responsabilité pour cela, mais la question qui est posée au final, est-ce que c'est l'époque qui fait ou c'est les personnalités qui font l'époque? Certainement, je pense que s'il n'y avait pas eu Venturi, les choses se seraient passées certainement de la même manière. Mais il y a effectivement des rôles de déclencheurs, et surtout dans le cas de Venturi, il y a une réflexion théorique donc qui est encore une fois tout à fait intéressante, et un débat qui mérite d'être posé entre une architecture qui est une architecture qui n'était pas compréhensible et rejetée par la plupart des gens, notamment l'architecture, on peut dire la monotonie de l'architecture moderne, des bureaux, des grands ensembles qui étaient rejetés par la population, et puis aussi l'architecture des pavillons de banlieue, et aussi de celles que l'on peut voir dans les centres commerciaux et dans le goût du public. Alors, je n'ai pas une réponse par rapport à cela tranché, parce que il y a des excès dans tout les deux extrêmes, mais en tout cas, c'est un débat qui mérite d'être mené. Et ce que l'on peut regretter aujourd'hui, c'est que ce débat qui était très vif à cette époque, donc je rappelle, donc c'est 68 et après. Et aujourd'hui, ce débat n'existe plus. La critique en architecture est totalement inexistante. et on a simplement des figures qui font des figures, mais c'est pareil, je veux dire, dans à peu près tous les domaines de l'art plastique, des figures qui font leur numéro, et on dit, ah oui, c'est original, c'est sublime, mais il n'y a aucune réflexion théorique, et ça, on peut craindre que, après la mort de Venturi, que... il n'y a pas eu de renouveau de la théorie architecturale, mais aussi de la théorie de l'art. Donc, à travers ces émissions, c'est ce que j'espère, c'est à mon petit niveau, d'essayer de réactiver une critique et qui ne tombe pas sur « tu es jaloux en critiquant cela » et uniquement des enjeux personnels, mais de réactiver une réflexion critique sur ce qui me paraît être des enjeux culturels très importants pour notre, non seulement pour notre pays, mais pour notre culture d'une manière beaucoup plus générale. Voilà, donc c'est la fin de cette série de 4 architectes, mais je ferai une postface qui, évidemment, sera une continuation de ce dernier propos de conclusion que je ferai et sur, évidemment, le 21e siècle et notre époque et nos rapports que nous pouvons avoir avec le 20e siècle. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Je remercie l'excellent Léo qui était, comme toujours, à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.